Voilà, nous allons regarder ensemble pour ce dernier entretien la place de la vie intérieure dans notre relation aux autres. Il y aurait une objection par rapport à la vie intérieure, dans quelle mesure elle ne va pas me replier sur moi-même, dans quelle mesure une vie contemplative ne me replie pas sur ma relation avec moi-même ou avec Dieu. De fait, si nous comparons le christianisme aux autres religions, toutes les autres religions parlent du sens de Dieu, d'une vie intérieure avec le divin. Je pense à l'hindouisme, à l'islam. Mais le christianisme est la seule religion qui montre que non seulement il y a un rapport à Dieu, mais il y a un rapport aussi au prochain. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, le prochain est important. Il est une créature de Dieu, il a le divin en lui, il est respectable. Mais la dimension d'amour, d'aimer son prochain, est très originale, est très spécifique au christianisme. Avant la venue de Jésus, on s'aimait dans la tribu, dans la famille, mais la tribu adverse, il n'y avait aucune raison de l'aimer. Le pays adverse, on n'a aucune raison de l'aimer. C'est un concept complètement nouveau que tous les hommes sur cette terre peuvent être aimables et je suis invité à avoir une relation d'amour avec eux. Jusqu'à aimer son ennemi. C'est strictement incompréhensible en philosophie. Quelles seraient les raisons d'aimer un ennemi? Il me semble qu'il faut vraiment avoir la révélation du Christ pour oser penser qu'il faut aimer tout homme. Ce n'est pas humain au sens simple du terme. L'ennemi est un ennemi, je n'ai pas à l'aimer. Et donc, il s'agit de voir l'originalité très grande du mystère de la charité fraternelle. Vous voyez, on ne peut pas avoir une intériorité avec Dieu sans prendre en compte ce que désire Dieu. Et ce que veut Dieu, c'est qu'on aime notre prochain. Vous voyez, c'est très très particulier, c'est magnifique. Notre cœur à cœur, notre vie d'oraison avec Dieu nous projette dans la vie active, nous projette dans une vie missionnaire, nous projette dans une vie de charité fraternelle. Si un jour vous rencontrez un ermite, si un jour vous rencontrez un vieux chartreux, c'est quand même rare, mais on ne sait jamais, posez-lui cette question pour savoir si c'est un vrai moine, si c'est vraiment un homme de Dieu. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai vu comment ils répondaient. Ils ont tous bien répondu. J'aurais dit, mais comment, vous qui êtes tout seul, comment vous vivez de la charité fraternelle? Puisque Dieu nous a dit qu'il fallait nous aimer, vous n'avez personne. Alors, les yeux pétillants, il dit, tu as raison, c'est le cœur de tout. Je ne passe pas une journée sans prier pour l'Église. Voilà le signe que c'est un vrai ermite, que c'est un vrai moine. C'est son cœur large aux dimensions de l'Église. Un jour, on est allé voir Jean-Paul II, il nous disait, chaque fois que je me lève le matin, ma prière va tout de suite pour la Chine. Vous voyez, un cœur missionnaire, un cœur qui porte toute l'Église. Voilà le signe d'une vraie vie intérieure. La vie intérieure ne peut pas être le repliement. Il n'y a pas un tempérament contemplatif. Moi, quand je suis rentré au couvent, j'avais un frère qui était très intérieur. Moi, j'aimais plutôt le sport. Et quand j'ai dit que je rentrais au couvent, tout le monde a dit, toi, ton frère, oui, mais pas toi. Oui, on a toujours une petite idée que la vie intérieure, la vie contemplative, c'est prendre un air. Bon, vous m'avez compris. Alors, ça n'a rien à voir. Au contraire, allez voir des vrais moniales, des vrais moines, ils sont trempés. Il faut avoir du caractère. Parce que la vie de solitude est rude. Il faut assez. voyez, une vraie vie intérieure épouse ce mystère de la charité. Alors, on va essayer d'un peu de le creuser rapidement. Un premier aspect, c'est que mon oraison me propulse vers l'action. J'aime Jésus et cette intériorité va s'inscrire dans mon action. Mon action va prendre une nouvelle finalité. C'est plus d'abord des choses à faire, des œuvres. Ce n'est plus ma cuisine, ce n'est plus telle et telle chose, mais je fais petit à petit l'œuvre de Dieu. Une action portée par l'oraison a une qualité toute nouvelle. Je ne regarde plus l'efficience, mais une finalité plus profonde. Je vais être plus audacieux dans mes actions, parce que Jésus est là, il est présent. Je vais traverser les épreuves de l'action avec une autre force, parce que d'un mal peut jaillir un bien. Bref, l'oraison me conduit à l'action et va changer de l'intérieur l'action. Inversement, mon action va me conduire à l'oraison. Parce que j'aurai compris que mon action s'achève dans l'offrande.